Le 24 juin, Robert Kramer a inauguré le nouvel enrochement de la Jetée des Paquis qui devrait faire plaisir à tous les baigneurs qui aiment lézarder sur les rochers. C'est un travail qui est le fruit d'une collaboration entre une artiste et un architecte. Abel Duarte, vous les avez rencontrés sur place?
Il s'agit de l'artiste sculptrice Carmen Perrin et de l'architecte Marcelin Bartassa qui ont travaillé tous deux sur commande de l'association des usagers des bains des Paquis.
Et comment se présente cette installation?
Ce sont de grands blocs calcaires, ocre et beige de plusieurs tonnes disposé à plat du côté grand large de la jetée des bains des Paquis est censé améliorer l'espace de plage de cette jetée. Et donc j'ai parlé avec Carmen Perrin et Marcelin Bartassa. J'ai demandé tout de suite à Carmen Perrin quelle était son approche vers cette œuvre et quel était son concept.
La situation ici, elle est un peu particulière parce que j'ai collaboré avec un architecte et avec un ingénieur pour mettre en place un dispositif qui est en même temps en partie une architecture, en partie un brise-lame, mais aussi une sculpture. Le travail s'est fait dans une collaboration ou par une collaboration très étroite entre ces trois disciplines par rapport aux contraintes et du site et des fonctions, on peut dire. Et quand j'ai été appelée par Marcelin Bartassa pour réfléchir sur ce contexte, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est justement le fait qu'il fallait qu'on trouve ensemble une forme, en même temps plastique, architecturale et d'ingénieur, si on peut dire, où les contraintes physiques du lieu, donc liées aux forces de la nature, mais aussi aux formes de l'architecture, tiennent compte uniquement de ce rapport de force. Donc la force du lac, la sécurité pour les baigneurs, et puis bon, la protection de la jetée. Et moi, depuis le début de mon travail, c'est-à-dire depuis 20 ans à peu près, je travaille avec des matériaux. Je m'intéresse beaucoup à la construction des formes. Et j'ai toujours basé mon travail sur l'idée des tensions. Et ces tensions ont toujours été une première contrainte que je me donnais pour faire venir des formes qui n'étaient en fait que la conséquence soit de mon rapport physique avec les matériaux et le fait de les mettre en relation les uns avec les autres par l'idée de la tension, par l'idée du constructif, de la fragilité, de l'équilibre. Et depuis que je travaille dans l'espace public, je cherche dans le contexte, qu'il soit paysager, urbain, quel qu'il soit, les mêmes types de rapports. C'est-à-dire que la forme qui surgit de mes collaborations, de tout ce que je pense face à un contexte soit la conséquence de ma compréhension du lieu et de ce qu'il m'oblige à faire pour m'y intégrer, mais m'articuler avec lui.
Vous avez travaillé sur un site historique et populaire des bains des Paquis et vous dites que vous vous articulez autour de ce contexte. Vous avez l'impression donc d'essayer d'insérer votre œuvre dans cette œuvre plus grande qu'est le site des bains des Paquis ou simplement d'adjoindre votre œuvre à celle des bains des Paquis?
L'impression que j'ai eue en travaillant, c'est le fait d'abord que le plaisir aussi que j'ai eu, c'est de ne pas pouvoir dire où est l'art, où est le travail de l'ingénieur et où est l'architecte. Et ensuite, en assemblant les pierres avec l'aide des ouvriers, j'ai eu l'impression que le lien entre les pierres qu'on a utilisées, les pierres de la découverte, et en même temps ces pierres, on est allé les chercher dans la même carrière du Jura français que où les pierres étaient prises pour la construction de la jetée, eh bien j'ai eu l'impression que c'est une insertion, mais en même temps c'est une articulation qui est physique, et en même temps, peut-être que c'est la deuxième fois que j'ai l'impression que le travail de la sculpture traverse l'idée d'un travail de land art, mais sans se détacher de, ouais, encore une fois, des contraintes très fortes du lieu. Donc avec cette sensation que ce qu'on a fait là, on ne pourra jamais le refaire ailleurs, surtout pas avec la même forme, peut-être avec le même état d'esprit, mais la démarche sera totalement différente.
Vous avez donc travaillé en étroite collaboration avec Marcelin Bartassa, architecte. Quel a été votre rôle sur ce projet? Parce qu'on sait que vous avez un rôle important au Bain des Paquis depuis la rénovation en 96, mais précisément sur ce projet.
Oh, c'est un peu une histoire, on pourrait dire que l'architecte est un peu un passeur, c'est-à-dire un passeur entre l'existant et l'ajout, puisqu'on est quand même dans un contexte patrimonial assez sensible, qui est le site de la Rade. Que l'histoire des bains des Paquis, c'est déjà une histoire du patrimoine contemporain dans un contexte, disons, d'un territoire du 19e, qui est la Rade de Genève. Donc on a là déjà des exemples assez extraordinaires de cette coexistence entre ancien et modernité. Donc Je pense que aussi ce rôle que l'architecte a, c'est d'arriver à bien capter les demandes des usagers et de voir comment ces demandes peuvent se transformer dans un contexte un peu comme vous l'a décrit Carmen Perrin. Que l'histoire des bains des Pâquis, c'est déjà une histoire du patrimoine contemporain dans un contexte, disons, d'un territoire du 19e, qui est la rade de Genève. Donc on a là déjà des exemples assez extraordinaires de cette coexistence entre ancien et modernité. Donc je pense que aussi ce rôle que l'architecte a, c'est d'arriver à bien capter les demandes des usagers et de voir comment ces demandes peuvent se transformer dans un contexte un peu comme vous l'a décrit Carmen Perrin. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, dans cette intervention, c'est un peu une histoire d'une partition à quatre mains, hein, comme on joue au piano. Et en fait, elle est un peu indissociable. Alors, la collaboration avec Carmen Perrin est née de cette idée que les usagers ont demandé de mettre à plat des enrochements pour pouvoir s'y étendre et descendre dans l'eau. Et nous, on a pensé qu'il y avait quelque chose de plus subtil à inventer entre les formes que l'eau donne, ce qu'on appelle la ligne organique de l'eau, courbe, sinusoïdale, et la forme architecturée de la jetée. Et que dans le fond, les enrochements vont constituer dans l'horizon de la rade cet entre-deux, et que pour pouvoir travailler sur cet entre-deux, l'importance des artistes, le rôle des artistes pour moi me paraît assez fondamental. Je pense que les architectes travaillent pas suffisamment avec les artistes. Moi, je fais partie de ceux qui y croient. Et immédiatement, en voyant le contexte, aussi le lac des fois se déchaîne, la matière qui était en jeu et cette histoire de bloc, j'ai pensé assez rapidement que Carmen Perrin pouvait nous être d'une très profitable collaboration. Alors voilà, ça s'est un peu passé comme ça. Puis cette partition, elle a été influencée par des agents extérieurs, par l'association des usagers, mais aussi par l'État de Genève et le service de M. Kramer, qui a aussi mis ses contraintes. Et très rapidement, nous sommes allés chercher l'ingénieur. Un ingénieur, Philippe Montegani, de Bienne, spécialisé dans les problèmes de houle, puisqu'il faut quand même savoir que par forte bise, on peut avoir des déplacements et des énergies très très importantes dans la force dans laquelle les vagues viennent se briser sur ces masses rocheuses.
Est-ce que vous pensez que l'aménagement urbain actuel a besoin de l'artiste pour évoluer ou même peut-être pour fonctionner ?
Ouais, il y a une belle jurisprudence à Genève sur ça, c'est l'histoire du fil du Rhône. Hein. Le fil du Rhône a été fait par Julien Descombes et Roberto Brogini dans cette idée qu'une intervention au fil de l'eau devait se faire à trois, en particulier avec les artistes, les ingénieurs et l'architecte. Donc on retrouve un peu cette trilogie qu'on a finalement pratiquée ici au Bain des Pâquis. Et pourquoi l'artiste ? Parce que l'artiste a des champs d'exploration qui sont atypiques, qu'il est un peu libéré des contraintes, et que dans ce sens-là, non seulement il a un rôle d'explorateur, mais que sur le plan plastique et de la forme, il nous amène dans des champs que souvent l'architecte, de par son rôle et disons ses responsabilités et sa propre logique, ne voit pas tout le temps. Et c'est un peu pour moi l'image aussi de comment on joue la musique, suivant si c'est un premier violon ou un oboïste qui vient. C'est vrai que le groupe est un peu différent et va se mouler, disons, dans les caractéristiques d'un musicien. Et je pense que les artistes, au même titre que les architectes, devraient être co-responsables de l'espace public pour pouvoir justement le magnifier davantage.
Carmen Perrin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ?
Je suis d'accord, mais je pense aussi qu'il ne faut pas en faire une règle. C'est-à-dire que l'artiste, la présence d'un artiste, que ce soit un plasticien, que ce soit un chorégraphe, un musicien, un écrivain, un poète, ou d'un scientifique aussi parfois, doit être le résultat d'une réelle nécessité. C'est-à-dire que moi je me suis rendu compte en collaborant avec des bureaux d'architectes ou d'autres disciplines comme un conservateur au jardin botanique par exemple, ou des chorégraphes, que quand il n'y a pas réelle nécessité, l'artiste, il est perdu. C'est-à-dire qu'il est aussi seul que sans personne dans son atelier, parce que les gens qui l'invitent n'ont pas construit les raisons ni même la forme, ni même l'espace de la nécessité de sa présence dans un projet. Donc là, on touche à un problème culturel, c'est-à-dire même de formation. Il ne faut rien. Les disciplines, pour le moment, se cloisonnent, se spécifient, se spécialisent. Et c'est dommage. Il y a dans toutes ces disciplines, des personnes qui veulent résister à ce cloisonnement, à cette professionnalisation. Et puis, ces gens, il faut leur donner une chance de rencontrer des gens qui pensent, d'autres personnes qui pensent comme elles. Et cette chance, on la construit dans la formation, mais aussi dans la manière dont on propage la culture à partir quand on est tout petit, quoi, à l'école, dans l'ouverture d'esprit, dans la tolérance, dans cette compréhension que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on traverse, que ce soit des espaces ou des objets qu'on utilise, sont tous en lien avec beaucoup de choses qui sont entre nous, et ces liens, il faut apprendre à les voir, à les percevoir, à les découvrir. Et pour moi, c'est à travers la mise en évidence, la révélation de ces relations que l'art peut travailler avec d'autres disciplines.
Abel, est-ce que cette réalisation fait partie d'une nouvelle approche du paysage ?
Oui, je pense qu'avec cette œuvre, nous pouvons voir clairement que les modifications et l'ajout dans les sites historiques participent à la conservation du patrimoine, voire à la création d'un nouveau patrimoine. Et pour apercevoir cet enrichissement, et surtout pour s'en servir, il faut donc aller au Bain des Paquis, ouvert toute l'année, par tous les temps.
Et nous parlerons prochainement de tous les aménagements urbains, depuis les Bains du Paquis jusqu'à la pointe de la Jonction, dans le projet qui s'appelle le Fil du Rhône. C'était un reportage d'Abel Duarte avec l'artiste Carmen Perrin et l'architecte Marcelin Bartassa. Après le disque d'Alain Souchon, c'est comme vous voulez, nous retrouverons Corinda pour nous parler de l'exposition de John Ho au musée de Carouge.
Je peux faire des choses fines en disant cocaïne.
Coranda, le Seigneur des Anneaux a fait déjà beaucoup parler de lui. Comment se fait-il que l'on puisse également monter une exposition à son sujet comme elle a actuellement lieu au musée de Carouge ?
Alors en effet, l'épopée du Seigneur des Anneaux, imaginée donc par l'écrivain Tolkien, a connu ces dernières années un engouement sans précédent de la part du public. Aujourd'hui, une exposition permet de découvrir l'homme qui se cache derrière la mise en image de ce récit. Né au Canada en 1957, John Howe se rend en Europe pour étudier les arts décoratifs. C'est l'univers architectural des cathédrales qui motive d'emblée son style, décrit comme du réalisme fantastique. D'abord illustrateur de livres pour enfants et de bandes dessinées, il tombe sous la fascination de l'œuvre de Tolkien, dont il s'inspire pour nombre de ses peintures. En 1997, il est appelé par le réalisateur Peter Jackson à être le concepteur visuel de la trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux. En compagnie d'Alan Lee, il conçoit les décors, les armes et armures, les personnages, les costumes qui vont animer les trois films à succès mondial. L'exposition au musée de Carouge réunit les œuvres exécutées avant, pendant et après cette aventure pour grand écran. Elle est composée de plus de 120 illustrations et objets réalisés par John Howe. Dès l'entrée, le visiteur est comme aspiré dans cet univers fantastique unique, mêlant réalité et imaginaire, expressivité et richesse du détail. Les forteresses majestueuses se détachent sur la montagne, tandis que les dragons crachent du feu. Dans ces décors grandioses, les personnages semblent avoir été pétrifiés en pleine action, comme si on avait mis sur pause une image vivante. La première salle est consacrée au Silmarillion, un âge du monde originel imaginé par Tolkien. La seconde salle présente les aventures de Bilbo le Hobbit, et la dernière salle, quant à elle, fait hommage au Seigneur des Anneaux, dont les trois parties furent écrites entre 1954 et 1955, soit près de 50 ans avant leur adaptation au cinéma. Une œuvre donc visionnaire qui n'a pas pris une ride et qui est admirablement mise en valeur par John Howe. L'artiste rendra d'ailleurs en personne au musée de Carouge le 4 septembre. L'entrée à cette exposition est exceptionnellement payante et son bénéfice est reversé à l'association Krusart Mei, qui est la première association cambodgienne d'aide à l'enfance défavorisée, ainsi qu'à la Maison des enfants de Carouge. Le monde du Seigneur des Anneaux par John Howe, c'est au musée de Carouge, place de Sardaigne, jusqu'au 11 septembre.
Nous allons maintenant écouter un autre extrait du concert pour violoncelle de Gavin Bryars.
Thank you.
Avant d'écouter les pépites de Manuel Bravo, quelques nouvelles. La ville de Genève inaugure un réseau sans fil qui est accessible gratuitement au public dans le parc des Bastions. Cette opération est le résultat d'une collaboration entre la direction des systèmes d'information et le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie de la ville de Genève. Donc ce sont des bornes publiques qui sont installées, des bornes Wi-Fi en libre accès à l'intérieur du parc. Et l'adresse internet est Esprit de Genève en un seul mot, espritdegenève.ch. Et également, même si le climat actuel ne s'y prête pas, la délégation à la jeunesse et le service des espaces verts et de l'environnement vous invite au Fardiente en mettant à disposition gratuitement des chaises longues pour les habitants, les passants et les touristes. Ce sont 8 parcs qui sont envahis jusqu'au samedi 17 septembre par de nombreuses chaises longues et qui invitent le public à la détente. Elles sont donc proposées à Baby Plage, dans le parc des Bastions, le parc de Beaulieu, de Bertrand, ainsi qu'au parc Lagrange, au Jardin de la Paix du Moelleau, au parc Tremblay et à celui de Saint-Jean. La nouveauté de cette année est la mise à disposition de livres pour agrémenter les moments de détente. Et l'opération Livre Nomade ne peut exister que par les dons de livres aux bibliothèques municipales. Et durant l'année 2004, ce ne sont pas moins de 5000 livres, dits de seconde main, qui ont été recyclés dans les différents lieux de lecture. Avec Livre Nomade, l'objectif est que les livres circulent de lecteur en lecteur. C'est donc une invitation à la lecture gratuite. Et après People in the City de R, nous retrouverons Manuel Bravo.
Thank you.
Bravo nous a maintenant rejoint pour nous parler des débuts de la musique électronique et plus précisément en Allemagne. Avec quel groupe, Manuel ?
Eh bien, on va parler d'un super groupe allemand qui s'appelle Harmonia. Et en fait, ce groupe, c'est la fusion de deux groupes de krautrock légendaires. Alors, quelques mots sur le krautrock. Le krautrock, c'est le terme inventé par la presse anglaise vers 1972 pour désigner toute une vague de groupes allemands apparus à cette époque et qui s'émancipent des modèles anglo-saxons en créant une genre de fusion entre musique synthétique, jazz rock, musique ethnique et puis une sorte de post-rock avant l'heure. Et donc, Harmonia, c'est la fusion de deux groupes légendaires du krautrock, Cluster et Neu, et aussi Neu, où il y a un musicien qui est un ex-Kraftwerk, et Harmonia a enregistré deux albums mythiques, Musik von Harmonia, dont nous allons écouter un extrait ce soir, et Deluxe. Et ce groupe a aussi collaboré avec Brian Eno, un personnage très, très important pour la musique électronique. C'est un ex-Roxy Music et c'est un des inventeurs de la musique ambient. Cet album que nous allons écouter, il a été enregistré dans une grande ferme à Frost, près de Hambourg, où justement s'étaient installés les deux musiciens de Cluster pour échapper un peu à la tension humaine. Et ils ont réalisé un album qui est incroyable, car il faut bien se mettre en tête que là on est en 1974. À l'époque, les musiciens ont des pattes d'œufs, ils font des solos de 20 minutes, et non, ces gens décident de faire une musique très minimale, très concise et très électronique et totalement innovante.
Et quel est le titre que nous allons écouter aujourd'hui ?
Eh bien, nous allons écouter un des grands hymnes de Harmonia. Le titre s'appelle Watusi. Et là, c'est vraiment le précurseur de la musique techno et pas seulement électronique, car ils ont apporté un grand soin à la rythmique et cette rythmique qu'on retrouve maintenant dans tous les grands morceaux techno. Je vous propose donc d'écouter Harmonia avec le titre Watusi.
C'était Vatoussi du groupe Harmonia. Vous avez écouté Cité Culture, l'émission culturelle de Radio Cité, que vous retrouverez demain. L'émission a été préparée avec Abel Duarte et Corinda Pierre-Imbert. Techniquement, c'était Olivier qui était à la régie. Je l'ai maintenant rendez-vous avec Cité Jazz, présenté par Yvan Fournier.